Comment le CA peut-il être efficace dans l'exercice de la gouvernance?
Eh bien, Monique, la gouvernance, c'est un processus actif. Les membres du CA sont tenus d'agir en exerçant un pouvoir décisionnel. Il y a des paramètres, bien sûr, un ensemble de processus et de structures sur lesquels l'organisme s'est entendu, mais fondamentalement, le CA décide et tous les membres du CA doivent être participants actifs avant, durant et après les décisions.
Mais il n'y a pas que des réunions et des comités.
D'accord. Il faut être présent aux réunions, oui, et participer aux comités, mais il faut en faire plus. Bien se préparer, s'informer et analyser la documentation avant les réunions, poser des questions aux réunions, appuyer les décisions du CA publiquement suite aux réunions, ce qui n'est pas toujours facile. Vous êtes là, comme membre du CA, pour représenter les membres de l'organisme et leurs intérêts. Soyez présents et engagés. Deuxièmement, il est très, très important de se rappeler que l'accent est toujours sur la réalisation de la mission et de la vision. Bonne question à se poser avant une décision. Comment cette action que nous allons prendre va-t-elle avancer la mission et aider à réaliser la vision?
Comment faire pour bien arrimer le tout?
Bien, pour clarifier le lien entre une action et la mission ou la vision, le CA aura défini déjà les objectifs visés. Donc, si l'action qu'on propose supporte un ou des objectifs, on est sur la bonne voie. Mais la réalité est qu'il y a toujours des limites aux ressources disponibles et le CA doit souvent décider entre plus d'une ligne de conduite à l'intérieur d'un plan d'action. Le défi, c'est de trouver les moyens d'utiliser au mieux toutes les ressources disponibles, financières, humaines et autres. En fin de compte, le CA sera efficace dans la mesure où, en exerçant son pouvoir décisionnel, il aura clairement défini ses objectifs et y aura parvenu en utilisant au mieux toutes les ressources.
Maintenant, Hélène, quelles structures et procédures ont le plus d'impact sur le rendement du conseil d'administration?
Et moi, j'en soulignerais quatre. Commençons par le CA. Le nombre d'administrateurs, leurs compétences et les attentes sont clés. En général, un CA qui a plus que 15 administrateurs ou moins de 5 ne fonctionne pas très bien. On a ou bien trop de monde et donc des clics ou des gens inactifs, ou on en a trop peu pour assurer une bonne gouvernance. L'efficacité du CA dépend des gens autour de la table. On veut naturellement avoir la meilleure combinaison possible des talents, des capacités, d'habiletés. Et aussi, il faut être sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les attentes.
Quel genre d'attente, par exemple?
Bien, les attentes relatives au mandat, par exemple. Une description claire des mandats des administrateurs qu'on retrouve dans les règlements et les politiques qui les encadrent. J'ajouterais aussi qu'il devrait y avoir des attentes assez élevées relatives aux occasions pour se perfectionner, se former, s'orienter vers une bonne gouvernance. Sinon, on risque premièrement d'élire des gens qui ne sont pas prêts et deuxièmement de mal utiliser les capacités des administrateurs. Aussi, je choisis le nombre et le bon fonctionnement des comités. Le point le plus important pour les comités, Monique, c'est qu'ils existent en fonction d'un besoin et qu'ils soient bien définis. Inutile de garder un comité parce qu'il est toujours là ou il a toujours été là. C'est toujours la même chose qu'on a toujours fait. Si le comité ne contribue aucunement au bon fonctionnement de l'organisme ou à l'atteinte des objectifs, si son mandat et ses procédures ne sont pas énoncés, comment on va éviter le chaos et mesurer le rendement d'un comité? L'appui administratif y est aussi pour beaucoup. Le manque d'appui peut mener à un CA inefficace. Il est difficile de prendre des décisions éclairées dans ces circonstances où, par exemple, le CA est épuisé par des tâches administratives, où les rencontres sont mal organisées, où il manque des documents, par exemple, le procès-verbal n'est pas prêt ou il est mal construit, ou même l'information essentielle n'est pas à jour.
Parlons d'information. Quelle est l'importance de la transmission d'informations aux membres du CA?
Les structures et procédures relatives au système d'information sont très importantes. C'est ce système qui organise les ressources qui nous permettent de collecter, d'entreposer, de traiter, de diffuser de l'information. Donc, les nouvelles technologies qu'on connaît, comme le courriel, l'Internet, l'intranet, les calendriers en ligne, Skype, Webinar et tous les autres modes d'appui électronique qu'on peut énumérer, ces nouvelles technologies s'avèrent indispensables de nos jours. Bien choisies, ces outils peuvent favoriser l'efficacité s'ils aident le CA à accéder à la documentation, partager de l'information, communiquer, évaluer, sonder, impliquer, consulter.
Où est la ligne de démarcation entre le conseil d'administration et le personnel rémunéré?
Bien ça, Monique, ça, c'est la question pour le million. La réponse, ça dépend. Ça dépend du modèle de gouvernance et des règlements, par exemple. Dépendant du modèle de gouvernance, il peut y avoir plus ou moins de communication et de chevauchement entre le CA et le personnel. Mais en général, deux règles. Le CA est responsable de l'organisme, mais délègue certaines tâches à la direction. Donc, tout ce qui touche la gestion opérationnelle, y compris l'embauche et la supervision du personnel, les programmes, les ressources physiques, la comptabilité et l'administration des finances, ça, c'est le domaine de la direction. Le CA embauche la direction, mais la gestion de la relation avec le CA passe par la présidence. Toute communication du CA avec le personnel passe par la direction, sauf quelques exceptions.
Dans quel cas peut-il y avoir un chevauchement des responsabilités entre le conseil d'administration et le personnel?
Bien, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est dans le cas d'un CA qui suit le modèle administratif. C'est souvent le cas d'un petit organisme qui n'a pas du tout ou très peu de personnel. Il y aura beaucoup d'interactions parce que les membres du CA seront probablement impliqués dans l'administration pour aider. Dans ce cas, il faut quand même observer la séparation des rôles et respecter l'autorité de la direction dans son rôle administratif. Il faut se rappeler quel chapeau on porte. Essentiellement, vous avez embauché la direction et elle sera évaluée sur son rendement. Laissez votre candidat faire sa job.
En conclusion, vous avez partagé beaucoup d'informations avec nous, mais quel est l'essentiel pour un nouveau membre du conseil d'administration?
Bien, si j'étais nouveau membre de CA, je dirais qu'il serait essentiel de lire et de garder en tête les statuts et règlements, le plan stratégique, le cahier des politiques et les procès-verbaux. Je dirais que l'administrateur devrait être actif, présent et engagé, prêt à représenter les membres et leurs intérêts. Et enfin, s'il comprend bien son rôle et celui du personnel engagé, il risque de contribuer à l'efficacité du CA. C'est ce qui est essentiel.
Merci beaucoup, Hélène Cameron, de nous avoir aidé à mieux comprendre justement l'essentiel de la gouvernance.
Ça me fait plaisir, Monique.